Bon, ben, le débat, donc ce premier débat avec Henriette Asséo va démarrer d'ici quelques minutes. Donc je rappelle hein, Henriette Asséo qui, entre autres, elle a écrit plein de choses, mais là, Les Tziganes, une destinée européenne, c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui, ainsi que aussi de la situation des Roms. Et voilà, il y a eu le film qui a été projeté là tout à l'heure au chapiteau Engels, un film qu'elle a fait en collaboration avec, entre autres, Edith Bloch, qui est ici dans l'assistance. Et vous pourrez poser des questions après l'exposé d'Henriette sur le film ou sur l'exposé d'Henriette. Je donne la parole tout de suite à Henriette.
Je peux y aller. Vous m'entendez? Bon, ça va? Bon. Alors, merci de votre présence et merci de cette invitation de Hello à venir parler d'une question hautement politique qui ne fait pas trop l'actualité à l'heure actuelle parce qu'il y a eu d'autres occasions de faire l'actualité, mais dont vous vous souvenez qu'elle l'a fait pendant très longtemps. Alors, je pense que la meilleure façon de faire ce débat, c'est de vous laisser la parole le plus possible et de répondre aux questions que vous vous posez. Parce qu'en fait, tout discours unilatéral, univoque, c'est-à-dire qui rassemble d'une certaine façon les choses, ne fait que casser la réalité et la diversité des situations. Donc, la présentation que je vais faire avant de vous donner la parole comprend trois aspects très rapides. Le premier, c'est de casser les visions acquises par les effets dévastateurs de l'opinion médiatique constituée à l'heure actuelle sur toute question prétendument ethnique. Et le deuxième aspect, c'est de montrer que tout ce qui concerne Tziganes et Roms est une question politique et que cette question politique a une importance considérable, à la fois comme laboratoire d'exploitation de politique, de gestion des populations et de discrimination, mais aussi comme mythologie. Et puis le troisième aspect, plus rapide, eh bien, ce sera de montrer la profondeur historique et la variété historique qui explique que, à l'heure actuelle, miraculeusement, vous pouvez encore parler des Roms ou des Tziganes ou des Gitans ou des Bohémiens français, des gens du voyage, alors que toute autre présence ethnographique a pratiquement disparu de toute l'Europe. Donc, j'inverse la proposition habituelle. Vous n'avez pas affaire à une population misérable qui serait le résidu d'un archaïsme européen, mais au contraire, à une culture dont la résistance exceptionnelle permet de perdurer et de garantir donc la permanence familiale et sociale. Voilà. Donc, premier aspect, les questions de vocabulaire. Alors, pour aller à l'encontre donc d'une vision uniforme, il y a dans les questions de vocabulaire une réponse simple et une mythologie acquise désormais définitivement et malheureusement qu'il faut battre qu'il faut dénoncer. Alors, la proposition simple, c'est qu'on a coutume de dire on a affaire à des gens qu'on appelle tantôt gitans, tantôt tziganes, tantôt roms, et on ne s'y retrouve pas. Mais si nous qui sommes français, nous traduisons en anglais français, on dira on a affaire à une population qu'on appelle tantôt French, tantôt gallica, tantôt françoisenne, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est la même population. Je n'ai pas dit la même ethnie ou la même race, bien entendu, hein, mais la même population qui apparaît au moment de la constitution des sociétés européennes En gros, entre la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle, au moment où les sociétés nationales se sont constituées, le Royaume de France, le Royaume d'Angleterre, les pays allemands, etc., et où les langues nationales se sont constituées. Et c'est le même terme qui vient du grec, qui vient des États grecs médiévaux, la gens Cinganorum, Cingani, qui se transpose dans toutes les langues nationales, qui devient Cingani, Zingari en italien, Ritanos en espagnol, Gypsy en anglais. Bon, pour les Français, c'est bohémien ou égyptien, c'est un cas un peu à part que j'exposerai un peu plus tard, et Zigeuner en allemand, et Cingani ou Cingani dans les différents pays d'Europe centrale. À l'époque, la monarchie autrichienne et l'empire ottoman tchengené. Donc, première chose, il n'y a pas une société nomade qui se serait mise en route il y a des siècles, qui aurait traversé de l'Inde à l'Europe pour arriver ensuite en Europe et se disperser dans tous les pays. Cette vision est une vision mythologique qui a été inventée, construite par les linguistes du XIXe siècle, au moment où la dominante intellectuelle qui sévissait dans tous les pays était ce qu'on appelle le mythe indo-européen, qui voulait que toutes les populations européennes proviennent de migrations qui auraient eu lieu d'un lointain bassin avestique, indo-gangétique, et qui se serait répandu dans toute l'Europe via la civilisation grecque ancienne, via la civilisation romaine, puis ensuite byzantine, puis ensuite chrétienne d'Occident. Et c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, parce que dans l'historiographie générale, cette vision donc de migration indo-arienne qui aurait pénétré le continent européen est totalement remise en cause. Alors, cette Gens Cinganorum, elle vient, et j'en ai fini pratiquement avec l'histoire, parce qu'à partir du moment où on a compris ça, on a tout compris, parce que c'est notre histoire, et vous n'avez qu'à vous pencher sur vos propres ancêtres pour retrouver l'équivalent des ancêtres romani, des sociétés actuelles romani. L'explication est beaucoup plus simple que cela. À la fin du Moyen-Âge, vous avez une grande crise qui est la grande peste de 1348 qui a détruit la moitié de la population européenne de l'époque. Et donc, la reconstitution, ce qu'on appelle le repeuplement médiéval, s'est opéré par des migrations. Et ces migrations sont contemporaines de la pression qu'exerce progressivement la poussée des invasions. D'abord, les conflits qui naissent de la désagrégation de l'Empire byzantin et donc les conflits entre les différents États grecs, et ensuite la pression évidemment qu'exerce l'arrivée des Ottomans. Et donc tous les chrétiens d'Orient, et vous voyez comme l'histoire se répète aisément à l'heure actuelle, sont contraints à une émigration. Et on appelle cette émigration grecque, globalement grecque. Ils sont de rite grec, c'est-à-dire de rite d'appartenance au patriarche de Constantinople ou de différents rites orientaux grecs, chrétiens grecs. Et parmi ces ensembles de migrations, grecque, vous avez grecque, cingani, les tziganes, albanese, les albanais. Alors, quand vous travaillez sur les archives, en particulier de l'Italie du Sud, vous retrouvez à travers l'anthroponymie et ensuite après la généalogie, cette nature de migration très ancienne et qui n'est pas une fois avec l'arrivée dans une ville, mais qui est étalée sur un siècle. Donc, vous n'avez pas de nomades, vous ne sortez pas d'Inde, et vous n'êtes pas une population discriminée. Vous êtes une composante, avec les conflits inhérent aux relations entre les empires chrétiens d'Orient et les empires chrétiens d'Occident, une composante de la société, des sociétés européennes, dans leur propre constitution. Et voilà pourquoi la définition des tziganes est donnée dès le XVIe siècle dans tous les pays européens en même temps. Parce que vous avez des migrations citadines en Italie, citadines en Espagne, mais vous avez des migrations militaires. Les ancêtres des tziganes français étaient des militaires attachés à la noblesse en Angleterre et en France. Des migrations domaniales, c'est-à-dire de paysans, paysans ou artisans ou commerçants attachés au domaine seigneurial dans l'Empire austro-hongrois. Et puis le réservoir balkanique qui connaît une histoire particulière à partir du XVIIIe et XIXe, puisqu'il est sous dépendance ottomane. Voilà. Alors ensuite, vous faites de la généalogie. Et qu'est-ce que vous constatez quand vous faites de la généalogie, comme vous en faites vous tous, peut-être pour rechercher vos racines ? Eh bien que les trois quarts des bohémiens de France sont en France depuis au moins la fin du XVIIIe siècle ou le XVIe siècle, qu'ils n'ont jamais voyagé, et que s'ils sont devenus ou s'ils sont itinérants, c'est sur une base de statut social particulier. Je vais prendre l'exemple de la France, qui était que vous étiez des sociétés militaires. Par définition, vous circulez. Par définition, vous êtes attaché à la noblesse. Par définition, tant que les guerres sont bienvenues dans le royaume de France, guerre de religion, fronde, etc., vous êtes prospère. Et quand les États jugulent la violence privée en créant cette forme nouvelle de violence d'État, à ce moment-là, vous êtes marginalisé. Et le cas des bohémiens français est un exemple. Alors, de toutes ces populations et de la variété historique d'ancrage découlent des caractères à la fois communs, c'est-à-dire européens, et en même temps différents. Caractères communs, tous chrétiens, mais dans des variantes différentes. Protestants, orthodoxes, luthériens, calvinistes, etc. Deuxièmement, tous appartenant à ce qu'on appelle l'European pattern. Alors, qu'est-ce que c'est que l'European pattern ? C'est les conditions qui ont créé le profilage structurel des sociétés européennes auxquelles nous appartenons. C'est le principe qui veut que vous n'ayez que des hommes libres, même si vous payez comme paysan, bien entendu, dans le régime seigneurial de l'époque moderne, des corvées, etc. Mais vous êtes des hommes libres. Vous avez donc le droit de fonder une famille, fondée sur le mariage, et vous assurez la légitimité de votre descendance par le patronage, le parrainage et par le baptême. Ensuite, vous gérez vos mariages et vous gérez votre descendance. Du coup, la continuité généalogique s'attache à une continuité territoriale qui s'attache à une continuité culturelle. Vous n'êtes ni dans l'archaïsme, ni dans la modernité. Vous êtes dans ce qui forme le tréfonds même de la possibilité de demeurer ce que l'on est à travers les siècles et indépendamment des persécutions ou d'une répression. Alors, la continuité tzigane, elle a plusieurs caractéristiques dans cet European pattern particulier. Tout le monde à l'époque, c'est-à-dire la majeure partie de la société, en tient pour ce qu'on appelle le mariage tardif. Je parle Europe, jusqu'à la frontière russe, pas au-delà. Au-delà, c'est tout à fait autre chose. Mariage tardif, c'est-à-dire 80% de la population est paysanne, elle se marie 26 ans les filles, 30 ans les hommes. Qu'est-ce qu'elles font entre-temps ? Ne me le demandez pas. Les historiens ont débattu dessus. Mais vous voyez que le mariage tardif entraîne ce qu'on appelle la fécondité, le contrôle de la fécondité. Vous avez sur des populations qui vivent en moyenne jusqu'à 40 ans ou 50 ans maximum, vous avez la possibilité d'avoir 5 enfants. Il en meurt 2, il en reste 2 ou 2,5. Et lorsqu'il y a une crise épidémiologique, on remonte l'âge au mariage. deux catégories en Europe n'exercent pas le mariage tardif. L'aristocratie, qui marie ses enfants très jeunes, les tziganes. Est-ce que c'est, point d'interrogation, une composante issue de cette migration gréco-balkanique qui a perduré à l'intérieur même des sociétés européennes, mais c'est une caractéristique particulière. Et vous voyez que cette caractéristique, la précocité du mariage, va être un fondement anthropologique qui va entraîner à la fois l'obligation de se définir, comme disent les tziganes, à partir de l'interconnaissance des Roms ou des Sinti, c'est-à-dire des tziganes de l'Ouest, qui vont être invités à à l'endogamie, c'est-à-dire au mariage entre les différentes personnes. Alors, l'élasticité du système tzigane, c'est que, oui, vous êtes attaché depuis la nuit des temps à un territoire, mais dans ce territoire, vous privilégiez une interconnaissance horizontale entre les gens que vous reconnaissez comme étant proches de vous, et ceci garantit la permanence culturelle. Et l'un des aspects les plus fascinants de cette permanence culturelle à qui fréquente de près ou de loin Sinti, Roms et autres, c'est la permanence de la langue. Et essayez d'imaginer ce que ça veut dire qu'en pleine Europe, vous avez encore 10 millions de personnes locuteurs du romani comme langue maternelle transmise aux enfants dans la famille, sans aucun soutien ni d'institution, bien entendu, ni de culture savante. Alors souvent, on me demande, mais toi, historienne, comment tu fais avec les archives ? Il y a des archives sur les tziganes comme il y en a sur tout. C'est-à-dire que, effectivement, accéder à l'intériorité du monde familial, ça ne peut s'opérer qu'à partir du 19e siècle et des grands rassemblements de documentation qui ont été faits par linguistes et anthropologues, ou à partir de l'interconnaissance que l'on noue soi-même avec des familles romanies. Et là, si on est du point de vue de l'anthropologie, du point de vue de l'interconnaissance, alors c'est vrai que c'est un monde dans le monde. C'est un monde à part et qui se veut comme tel. Pas politiquement, pas par le biais de la revendication, silencieusement. Il y a un très beau livre de Patrick Williams sur le silence des manouches d'Auvergne, sur la façon dont on ne parle pas d'un certain nombre de choses. Mais dans un système de pratique, dans un système d'existence qui est transmis à l'enfant avec le sein de sa mère, c'est-à-dire avec la puissance de résistance que peut représenter la famille. Alors c'est assez mal vu d'avoir un point de vue de défense, émancipatrice et volontairement révolutionnaire sur l'idée que cette culture qui apparaît comme tellement archaïque, que l'on regarde sous un angle totalement misérabiliste, est porteuse en fait d'une grande puissance de résistance à laquelle on devrait s'intéresser tout particulièrement, parce que le mécanisme de délitement des sociétés européennes opéré par la pression de l'ultra-capitalisme mondialisé actuel est un processus à la mort. C'est-à-dire, c'est un processus qui considère pour la première fois dans l'histoire que la conservation du genre humain et la conservation des sociétés est superfétatoire. Donc, bien sûr, les tziganes sont superfétatoires, mais nous sommes tous superfétatoires. Et donc, la vision que héritier, ici on est dans l'amphithéâtre Karl Marx, c'est-à-dire de cette idée que le progrès et la lutte contre l'obscurantisme ancien et le temps ancien est une idée que nous devons relativiser, parce que le progrès actuel, tel qu'il est présenté dans l'ultra-capitalisme, c'est le démantèlement social et non pas le remplacement d'une société inégalitaire par une société plus juste. Et voilà. Alors, ce qu'on apprend à travers les tziganes, c'est que on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin de ceci ou de cela, si il y a une suffisante solidarité et solidité familiale à l'intérieur d'une société relativement tolérante, la possibilité de perdurer dans son être, dans son existence, peut avoir lieu. Et c'est ce qui a assuré, entre 16e et début du 20e siècle, cette permanence ethnographique, cette permanence sociale. Sauf que, et là j'en viens à la dernière partie de mon exposé, c'est-à-dire la partie politique, sauf que tout change au 20e siècle. Et là, vraiment, il y a un phénomène fascinant. C'est que les tziganes, alors je vais employer le terme générique de tziganes, mais je peux dire tziganes et roms, de façon à ce qu'on comprenne bien que ça concerne aussi bien les sintés de l'Ouest que les zingaris italiens, les ritanos espagnols, enfin, et puis les roms de l'Europe centrale et orientale, vont être soumis à une offensive politique ciblée. Et cette offensive politique ciblée est le laboratoire par lequel les États, et vous voyez, j'ai changé de registre, je parlais anthropologie, je parlais société, je parlais famille, je parlais statuts juridiques et économiques et sociaux, et maintenant je parle État et politique. Je répète, une offensive politique ciblée, conduite par tous les États européens à partir de 1913 et relancée après la Première Guerre mondiale. Alors ça nous interpelle, parce que j'ai dit tous les États européens, c'est-à-dire aussi bien les États démocratiques que les États fascistes. Tous mettent en place des systèmes d'identification familiale. Le critère, c'est jamais un individu, c'est toujours la famille qui est identifiée. Ces systèmes d'identification qu'ils appellent clairement Politik Zigan, alors en allemand Zigeunerpolitik, Ziganska Politika dans les pays de l'Europe centrale, régime des nomades en France, ou Gypsy Policy en Angleterre, absolument partout. Et ça consiste à cibler un certain nombre de familles sur des critères doubles. Il y a bien sûr le critère de la mobilité suspecte, qui est la mobilité ouvrière, populaire. Je prends un seul exemple pour faire comprendre ce que je dis, c'est le cas de la France. 1912, une loi est votée par la Chambre des députés. Cette loi prévoit de réguler le commerce itinérant, à l'époque considérable, déjà dans l'entre-deux-guerres, 30% du commerce parisien était encore assuré par des ambulants, et de lui donner un statut légal. Mais évidemment, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et l'ivraie, c'est quoi? C'est tout ce que les parlementaires appellent, de manière très ambiguë, circulation des nomades. Et voilà qu'apparaît le mythe constitutif du XXe siècle, c'est-à-dire tout ce qui est nomade, ambulant et déterritorialisé. On a affaire à des populations intra-européennes, on n'est pas du tout dans le cadre d'une immigration extra-européenne, on est à l'intérieur des sociétés européennes et de leurs mutations. Et tout ce qui est nomade déterritorialisé est versé dans le grand ensemble que construit la politique contemporaine et dont nous n'échappons pas, que nous soyons démocrates ou fascistes, l'ensemble de ce qu'on appelle la socialité, c'est-à-dire l'idée que, au beau milieu du monde populaire, il y a une génétique asociale portée par un certain nombre d'individus et de groupes, et que cette génétique sociale doit être éradiquée. Et du coup, les polices contemporaines, qui sont constituées, la direction de la sûreté en France, constituées, professionnalisées au tournant des années 1913-1926, se jettent littéralement sur ce gibier qu'elles vont constituer comme délictueux à l'avance, préventivement, par un mécanisme d'enregistrement et d'autodéclaration. Et évidemment, selon l'éventail de la tentation totalitaire du pays démocratique qui sévit, mais se sévit à moitié, etc., à la volonté totalitaire totale, cette question de la socialité devenue une catégorie politique contemporaine dont nous ne nous départageons plus désormais, transforme la question sociale du XIXe siècle, de l'époque de Karl Marx, en une question ouvrière d'un côté et en une question de la socialité de l'autre. La question sociale est transformée. Et vous comprenez du coup pourquoi tous les régimes fascistes, mais pas seulement eux, dans la Deuxième Guerre mondiale, enferment, créent une politique d'internement systématique familial et puis ensuite une politique séquentielle de génocide ou d'extermination. Ici, c'est évidemment l'acmé de cette politique est pratiquée par les nazis, mais pas que, les Croates aussi, à l'égard d'une population catholique qui a été dénationalisée, et ça n'a pas empêché l'archevêque de Croatie d'être béatifié par Jean-Paul II, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez là un éventail de comparaisons. Et si vous basculez du côté communiste, alors communiste, attention, je ne vais pas employer de gros mots, je ne vais pas dire communiste, du côté stalinien, hein, c'est-à-dire de la dérive pratiquée par l'ensemble de l'Union soviétique à partir de 1928 et dans l'ensemble des pays d'Europe du Cominform, eh bien la politique tzigane, c'est-à-dire la tziganska politica, a perduré. Et donc, vous avez à l'intérieur de cette politique tzigane toutes sortes de gens, des gens qui ont été épinglés parce qu'ils exerçaient un métier itinérant, par exemple le cas de la France pour une partie des gens du voyage, et qui sont ensuite entrés dans un régime d'exception, le régime des gens du voyage, dont vous ne sortez pas. C'est un régime d'autodéclaration transgénérationnelle. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur d'une famille de gens du voyage, votre enfant sera déclaré séparément par rapport aux autres citoyens français, bien que vous apparteniez à une famille française depuis la nuit des temps. Vous êtes dans un régime d'exception. Et la France républicaine, qui prétend traiter de la même façon tous ses enfants, conserve à l'intérieur de... Là encore, on ne parle pas de questions de xénophobie, ni d'étrangers extraterritoriaux, ni d'immigration, conserve à l'intérieur de son droit une exception juridique et administrative qui provient de cette époque-là. D'ailleurs, la France a enfermé dans des camps pour nomades, sur le territoire français, il y en avait plus d'une trentaine, ces familles qui étaient enregistrées auprès des préfectures et de la gendarmerie dans le régime des nomades. Et elle, quand elle a libéré de ces camps, seulement après la guerre, bien après la guerre, et pas en 1945, mais beaucoup plus tard, elle leur a redonné immédiatement le carnet anthropométrique emblématique, mais toutes les formes de contrôle qui s'exercent. Donc, vous voyez que la politique tzigane est un angle d'observation tout à fait effrayant. Parce qu'il montre que, bien entendu, le jeu entre la légalité de droit entre les citoyens, je parle de l'égalité réelle, tout le monde sait que ça reste à conquérir par un combat politique, mais au moins, il semblait qu'une chose était acquise, l'égalité de droit, eh bien, elle n'existe pas. Puisqu'on a pu créer les conditions de constitution d'une population fermée, pris au piège d'un enregistrement dont on ne peut pas sortir. mais qui va très loin. Hein. Tout mariage doit avoir l'aval du préfet. Il n'est pas possible de posséder un bien en bien propre, etc. Et évidemment, cette conservation d'un régime d'exception a entraîné aussi, paradoxe, c'est un paradoxe, mais la conservation d'une culture. C'est-à-dire que les voyageurs sont à la fois des familles romanies, c'est-à-dire des anciens bohémiens d'en France de l'Ancien Régime, et aussi des familles qui exerçaient un métier itinérant et qui ont été contraintes de s'enregistrer. Ils ont développé la culture des voyageurs, qui est un mix entre tout cet ensemble et qui, elle aussi, est un élément constitutif des cultures régionales. Bon, alors, on a compris que vous avez trois histoires qui vont se télescoper. Voici deux histoires que j'ai exposées. L'histoire profonde, celle qui nous est commune et qui constitue les fondements même d'une société, des sociétés européennes, à la fois dans la diversité historique et dans l'enracinement. Ce n'est pas la vision archaïque, ce n'est pas Stephen Bern et ses machins avec Louis XVI, c'est la profondeur même des racines populaires du peuple telles que nous devons la réactiver, la préserver et l'émanciper. Et puis, une deuxième histoire, une histoire d'État, mais d'État consenti, qui repose beaucoup sur des lois adoptées dans des pays démocratiques et donc qui sont entre guillemets incontestables et qui sont iniques. Voilà, c'est le deuxième aspect. Avec l'extrême de cette politique tzigane qu'a représenté la politique communiste de cantonnement en Europe centrale, de prolétarisation massive, c'est-à-dire de déplacement, par exemple en Tchécoslovaquie, de déplacement des villages vers les usines et de façon à casser la culture romanie. Et puis un troisième aspect qui est la politique ultra-contemporaine. Alors je termine là-dessus parce que c'est tellement le bordel que vous m'excusez, je ne peux pas la résumer en quelques minutes. J'ai employé le terme de bordel qui n'est pas du tout un terme adéquat à la prétention que un savoir académique et un savoir concret, hein, c'est-à-dire une connaissance et des relations nouées de très longue date et démultipliées à l'heure actuelle. Simplement, ce vocabulaire détestable que je n'emploierai pas à l'écrit permet d'exposer un élément de l'inconfort et du sentiment de dégoût que provoque la situation actuelle. Parce que vous avez affaire à quoi ? Vous avez affaire, sous couvert d'émancipation, à une destruction, à un ethnocide. Et ce qu'il y a de répugnant, c'est le côté sous couvert d'émancipation. Premier acteur de cette nouvelle donne qui se développe à partir des années 2000, évidemment sur les effets désastreux de la transition ultra-capitaliste des pays d'Europe centrale et orientale, mais pas seulement là-dessus. Premier acteur, les institutions européennes. Elles ont trouvé dans l'idée qu'il fallait unifier sous un mythe constitutif, mais qu'elles prennent pour argent comptant, les Roms de toute l'Europe pour leur attribuer une citoyenneté extraterritoriale. Bon, c'est la première fois que je vais faire une comparaison de cet ordre, mais cette idée lumineuse, c'est l'idée qu'avaient les nazis dans l'entre-deux-guerres. Hein, c'est, voilà, une population d'origine indienne, c'est un mythe nazi, et à qui on attribuerait une citoyenneté ultra-territoriale, c'est un mythe nazi. Et je vous rappelle que d'attribuer une citoyenneté extraterritoriale pour ensuite s'en débarrasser, c'était aussi ce qui était prévu par mal d'États dans l'entre-deux-guerres à propos des Juifs. Donc, on voit très bien comment les institutions européennes se sont servies de la fabrication de l'entre-guillemets nation Rome à leurs mains, c'est-à-dire à des mains de technocrates qui ne sont jamais allés dans un camp de Rome, par définition, et sûrement pas dans un village Rome, ni en Roumanie, ou en Hongrie, ou ailleurs. Hein. Eh bien, c'était en fait la métaphore de la volonté de destruction des remparts nationaux que représentent les droits nationaux. C'est-à-dire la possibilité d'investir le champ de tout le champ constitutif des citoyennetés européennes par ce biais-là. Alors évidemment, si vous attribuez une citoyenneté extraterritoriale à un individu, ça peut marcher pour trois représentants d'activistes qui ont leur bureau à la Commission ou au Parlement européen. Mais évidemment, pour la masse des gens, ça ne fonctionne pas. Ça se transforme en quoi ? En inquiétude de la part des administrations qui se disent « Oh là là, nous avons accepté le principe de la liberté de circulation, mais la liberté de circulation s'arrête là où précédemment l'autorisation d'exercer des métiers itinérants s'arrêtait à la circulation des nomades. » Eh bien, la liberté de circulation s'arrête à ce qu'on a appelé les Roms migrants. Et dans le mot Roms migrants, ce qui compte, c'est migrants. Parce que migrants intra-européens, ça n'existe pas. Vous êtes de quelque part, et vous allez quelque part, et vous revenez quelque part. Il y a en Europe ce qu'on appelle des mouvements pendulaires. Vous allez et venez. Si vous établissez la liberté de circulation, vous ne pouvez pas ensuite dire « Ah ben non, c'est pas pour les nomades ». Pour les Roms migrants, parce que vous les avez fabriqués. Et les camps de Roms, c'est-à-dire un droit d'exception parallèle au droit des gens du voyage, hein, terrain de stationnement, camps de Roms, c'est-à-dire une exception territoriale, un principe d'exception, une tolérance d'exception, régulée par l'évacuation permanente. Chaque famille aura connu 10, 15 évacuations quelquefois, plus encore. Eh bien, c'est une procédure qui n'a pas été voulue par les gens, mais qui a été imposée par un système politique et administratif. Et à partir du moment où vous l'avez créée, avec de vrais gens, de vraies familles, des vrais enfants, des vraies femmes, des vrais hommes, évidemment, après, il faut le gérer. Et la technique de gestion, ça consiste à rendre responsables les populations piégées par ce mécanisme, de façon à ensuite dire, décidément, comme a dit M. Valls récemment, il n'y a rien à en tirer, ils ne sont pas intégrables. Et ça, c'est un propos raciste. Mais un propos raciste qui repose sur la procédure politique qui a consisté à ne pas accorder le droit commun de la circulation à tout le monde. Bon, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que vous avez autour de la région parisienne et partout, le camp de Rome. Mais ça n'explique pas, et je vais terminer là-dessus, l'ultra-politisation, le suprématisme du discours politique sur les Roms. Parce que, somme toute, pour la seule France, vous n'avez affaire qu'à 18 000 personnes. Or, il entre en France comme étranger 150 000 personnes par an, 18 000 depuis une dizaine d'années, 150 000 de l'autre. Cherchez l'erreur. Et lorsque vous discutez, moi j'ai été frappée hein, des discussions avec des préfets ou avec des hommes politiques, alors que vous leur dites, mais quantitativement ça ne représente rien, et ils vous répondent toujours, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il y a là, nous avons créé un droit d'exception sur des populations intra-européennes. Nous les avons piégées dans un système de dénationalisation réciproque, hein, de boomerang réciproque. Et après, ça constitue une exception. Et comment on traite les exceptions en Europe ? En les faisant disparaître. Par l'acculturation, par l'assimilation, par l'extermination, par l'ethnocide, par des procédés différents. Simplement, pour revenir à la réalité est tout autre. Les gens des camps de Roms, bon, je ne connais pas tous les camps de Roms, mais enfin j'en connais un certain, ce sont, pour ceux qui viennent de Roumanie par exemple, à 90% des villageois, nous, nous n'avons pas tellement de migration venue de Hongrie et de Tchécoslovaquie qui va dans les pays allemands ou au Canada. Donc, nous n'avons pas de prolétaires stricto sensu ouvriers, anciens ouvriers. Mais nous avons des villages, des paysans. Et ces paysans, ces familles paysannes, elles ont été intégrées à un mécanisme de collectivisation des terres spéciales en Roumanie et déterminante pour leur existence actuelle. C'est-à-dire qu'aussi bien dans l'entre-deux-guerres sur les réformes agraires de 1921 ou de 1947, au moment où les communistes prennent le pouvoir, elles n'ont pas eu accès à la terre. Elles n'ont pas eu accès à la terre. Et quand la transition a eu lieu, tout le monde a eu accès à la terre, sauf elles. Ce sont des paysans sans terre, comme en Amérique latine et comme partout ailleurs. Qu'est-ce que font les paysans sans terre? Ils cherchent effectivement, ils peuvent, pas tous, mais chercher à travers la migration du travail, la possibilité non pas d'une vie meilleure, il ne s'agit pas d'avoir une vie meilleure, il s'agit simplement de survivre. Et là où il y a eu des redistributions de terres, on assiste à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je vais fermer la boucle, parce que les bras m'en tombent, aux effets pervers de la politique européenne, c'est-à-dire à des procédures d'expropriation sous couvert de modernisation. Et vous voyez, expropriation sous couvert de modernisation, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle les politiques agraires en œuvre à l'heure actuelle. Je viens de parcourir la Roumanie. Qu'est-ce qu'on voit? Les fonds de pension américains racheter de la terre et dire aux paysans, ben vous restez sur place, mais vous nous payerez un tribut. Retour au péonnage d'Amérique latine, retour au latifondia, retour à ce qu'il y avait de plus ignoble dans le capitalisme agraire de les précédents, alors que nous, nous sommes plutôt centrés sur... la déconfiture du capitalisme industriel et la disparition des usines à l'intérieur du territoire européen, et que nous avons tendance à voir le monde paysan comme aussi une forme d'archaïsme. Eh bien non, là se trouve une lutte essentielle contre les accords qui vont être signés entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique sont, sur ce plan, dévastateurs. Et s'il y a bien une chose qui peut servir à la conscience collective, c'est de comprendre que Rome, Tzigane, Gitan, Sinté, c'est une résistance exceptionnelle et magnifique, et que le destin qui nous est promis à nous tous est le destin qu'ils ont subi au XXe siècle. Merci.
Bon, on a encore 20 minutes là pour poser des questions à Henriette Asseo. Alors, qui s'inscrit? Je vois une personne là-bas.
Je sais que bon, les persécutions des véganes, elles sont très anciennes, je crois, dès le XVIIe siècle. Mais je veux savoir, pouvez-vous me dire si, à l'époque de la Révolution française et même du siècle des Lumières, il y a eu des perspectives, des idées chez les philosophes ou même chez les révolutionnaires d'émancipation des véganes?
On peut prendre plusieurs questions. Il y avait monsieur...
Oui, moi c'était une question un peu pointue, mais dans tous les programmes scolaires, que ce soit à l'école élémentaire, au collège, au lycée, il y a un même chapitre qui est l'extermination des Juifs et des Tziganes, deux points, un crime contre l'humanité. Et est-ce que, de votre point de vue, on peut faire une équivalence entre l'extermination des Juifs d'un côté, l'extermination des Tziganes de l'autre, en sachant, moi j'ai quelques vagues connaissances, mais que dans la vision nazie des Tziganes, c'est assez complexe. À un moment, en 1938, ils essaient de définir des Tziganes qui seraient purs, des Tziganes impurs. Voilà, donc la question c'est, est-ce qu'on peut... Parce que c'est pas facile, en fait, de... On connaît pas grand-chose sur les Tziganes. Merci.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce que vous pouvez préciser, quand vous parlez de juridiction d'exception actuellement, vous avez parlé de non-accès à la propriété?
Oui, il faut quand même rappeler que les premières lois sur les personnes qui se déplaçaient sur le territoire français date de Louis XIV.
Oui, mais c'est dans un autre...
C'est la première classification. Ensuite, bon, quand on voit actuellement la... Alors, il y a eu une modification du livret de circulation en 69. Là, elle est en train de tomber, mais on ne sait pas par quoi ça va être remplacé. Donc c'est une complexité. Il faut aussi quand même dire que les droits des gens dits du voyage, parce que moi je suis dans une association qui s'appelle la DGVE, Association sans droit ni titre de terrain sont depuis l'arrivée de Valls qu'ils soient...
Allô ? Oui. Non, ça marche ça.
Qu'ils soient ministre de l'Intérieur ou Premier ministre sont supérieurs à ce qui existait sous Sarkozy.
Bonjour, merci pour cet exposé. Moi je suis instite et actuellement on inscrit à tout va les enfants en Roms qui sont dans les squats autour des écoles. On arrache les petits de moins de 3 ans ou de 3 ans aux mamans Roms qui n'aiment pas du tout ça, qui n'aiment pas donner leurs enfants aux écoles. Est-ce que l'école ne participe pas à la... cette intégration par l'école, puisqu'on leur fait une sorte de chantage, si vous voulez qu'on vous donne un appartement, vous devez avoir des enfants scolarisés, bien intégrés, qui viennent à l'école régulièrement, avec assiduité. Est-ce que l'école, telle qu'elle intègre actuellement, sans prendre en compte la culture et... La culture de ses enfants, est-ce qu'elle ne participe pas à la destruction et la sédentarisation sédentarisation aussi. Voilà.
Bon. Par quoi je vais commencer? Bon, ben, je vais commencer par le XVIe siècle très vite. Oui, comme les capitaines de Bohémiens sont des compagnies militaires, Louis XIV décide de détruire la guerre privée et de confisquer cette guerre à son profit. C'est une guerre aux frontières et non pas une guerre entre noblesse, entre seigneurs, entre protestants et catholiques, etc. Et donc, du coup, ces compagnies sont détruites et leur chef est conduit aux galères. Et donc voilà. Et les femmes qui disent la bonne aventure sont aussi condamnées et les enfants placés à l'hôpital. Donc il y a une volonté d'éradication complète. Ceci étant dit, ça n'a pas empêché ces familles Sinti, que moi j'ai repérées comme étant les descendants des capitaines de Bohémiens et non pas des troupes qui pouvaient être un peu composites, de se perdurer et d'exister encore à l'heure actuelle. C'est les Manouches des Pays de la Loire, et tout le monde connaît les noms, qui sont des noms archi-français, les Deslauriers... ou les Manouches d'Alsace, évidemment, les ancêtres des Birelli Lagrène, Django Reinhardt et compagnie, qui sont plus connus. Voilà. Bon, ça, donc, il y a eu, et maintenant je réponds sur les philosophes des Lumières, il y a eu, voilà, des séquences de persécutions systématiques, mais elles ont des contextes différents. Ce qui importe au XXe siècle, c'est qu'il y a une seule interprétation, un seul contexte et une seule volonté, et qu'elle porte sur les mêmes populations, c'est-à-dire la frontière entre la mobilité, entre guillemets, les mondes populaires ciblés, entre guillemets, asociaux, et les tziganes. Il y a une frontière mouvante là qui est opérée et ça sert de dispositif de mise en place de systèmes d'identification, ce qu'on appelle, nous les historiens, l'identification moderne des personnes. Et sur quoi repose cette naissance? Sur la création des fichiers de police. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, vous passez, c'est un désert policier, vous passez à travers les mailles, etc. La frontière, le passeport, qui devient un instrument qui permet de passer la frontière, mais le fichier détenu, contrôlé par la police. Et vous avez un exemple fascinant, c'est que vous avez parlé donc du livret anthropométrique qui était attribué donc sur obligation de déclaration à toute famille ambulante, qu'elle fût bohémienne ou non. Hein, voilà, hein, c'est ce que vous confirmez bien sur les familles d'Essonne que vous connaissez, qu'il y a des gens qui sont anthropologiquement des bohémiens depuis toujours et d'autres qui sont des ruraux qui exerçaient un métier itinérant, le cinéma ambulant par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Ils ont été contraints de s'enregistrer, les forains. Les forains, quand ils sont en famille, individuellement, ils ont le carnet de forains. Bon, et donc, vous avez tout un appareillage, 5 documents d'identité qui sont demandés, les photos des enfants à partir de l'âge de 2 ans, la plaque de la... Bon, et tout ceci en fichier en partie double, transmis à la direction de la sûreté, avec une partie qui reste à la préfecture et un contrôle pratiquement quotidien. C'est la population la mieux connue de tout le territoire français. Eh bien, ce modèle... C'est celui qui sert à la création de la carte d'identité française qui naît en 1940. Et si vous avez une photo sur votre carte d'identité, c'est parce que l'identification moderne a reposé sur la photographie. Et qu'en conséquence, le fait de photographier de face, de profil, avec l'oreille dégagée, avec l'iris, tout ce que vous retrouvez dans le passeport biométrique actuel, c'est né de l'anthropométrie juridique de cette époque-là, hein, Bertillon et les autres. Et on a continué à garder la photo alors qu'on avait l'empreinte digitale qui ne nécessitait pas d'avoir 10 000 appareillages pour vous repérer. Eh bien, la carte d'identité est en 40. Et tout de suite derrière, vous avez le statut des juifs, c'est-à-dire sur la carte d'identité, vous apposez le tampon juif. Et donc sur un vaste panel de gens, vous repérez ce que vous voulez réduire. Et cette méthode administrative qui enserre absolument tous les individus, casse les communautés politiques, casse les communautés sociales, casse les systèmes de défense du travail, casse le syndicalisme, casse etc. Elle a évidemment son achèvement dans le nazisme. Et le nazisme repose sur la même logique. Moi, je pense que on n'a pas à mettre génocide des juifs et des tziganes. Sur un certain plan, ça n'a rien à voir. Mais il y a un élément qu'on pourrait expliquer malgré tout, c'est que le nazisme décide une révolution absolue à l'égard de sa propre population, c'est-à-dire des Allemands, hein, du territoire allemand. Et l'opération, ça a consisté à dire, à partir des lois de Nuremberg, on dit les lois de Nuremberg exclues. Non, attention, regardons comment elles procèdent. À partir des lois de Nuremberg, tout papier d'identité que vous possédez antérieurement, que vous soyez descendant du prince d'Artempion ou Elzolern depuis le XVIe siècle, ne compte pas. Seul compte la nouvelle citoyenneté biologique sur la base, entre guillemets, arienne, qui consiste simplement, comment vous prouvez que vous êtes arien, par un certificat d'arianité que les généalogistes vont vous donner, ce qui fait que la carrière des généalogistes s'est répandue comme une traînée de poudre sous le nazisme, et qui sera réutilisée chaque fois que vous devrez prouver un acte public, n'importe lequel, prendre un emploi, etc. C'est vos grands-parents. Pourquoi les grands-parents ? Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas d'état civil, vous n'avez que des registres religieux. Parce que vos grands-parents, ils sont forcément nés avant que soit créé l'état civil dans un empire allemand qui était encore sous registre religieux. Et donc on dit, sera allemand en première instance, en première intention, toute personne qui pourra prouver qu'elle n'a pas un grand-parent juif, ou deux grands-parents juifs, ou un grand-parent tzigane. Alors là, vous avez le double volet de la citoyenneté biologique. C'est-à-dire que vous n'avez pas la politique raciale, c'est le contresens que l'on commet sur la politique raciale, c'est de penser que vous, communauté nationale, vous êtes préservée face à un ennemi extérieur que vous allez éradiquer. Mais non, c'est à l'intérieur de vous tous, le totalitarisme c'est ça, c'est un tri interne à la communauté nationale. Et les nazis l'ont opéré avec deux volets. Le volet des lois de Nuremberg, c'est un volet juridique, complété donc des lois sur les tziganes, un seul grand-père, marqué de Zigeuner sur les registres paroissiaux, et vous dégagez, juifs, vous dégagez. Et les autres, bah les autres c'était des Allemands, comme Hitler le dit, des Allemands de basse qualité raciale. Et vous créez donc la déportation des asociaux et les actions T4, c'est-à-dire l'euthanasie.
Pardon, attendez, Henriette.
Oui.
Une dernière question. Non, je crois qu'il n'y a plus vraiment le temps de poser des questions, mais attendez, on va demander à Henriette assez haut de conclure en 2 minutes et vous pourrez ensuite continuer à discuter avec elle en achetant son bouquin ou en discutant avec elle au stand à côté, qui se trouve à côté du chapiteau.
Pour conclure, je voudrais surtout vous remercier. Et d'une certaine façon, je peux établir le lien avec la question qui m'a été posée sur les Lumières. Effectivement, il y a une révision déchirante qu'on est obligé d'opérer. Oui, les Lumières promettent un avenir exceptionnel à tout citoyen doté de l'égalité de droit, mais cette égalité de droit est accompagnée d'un autre aspect des Lumières, qui est les Lumières allemandes, c'est-à-dire la philologie, et l'idée qu'il existe un fondement ethnique, un fondement de peuple. Que le peuple, c'est pas simplement une communauté de vouloir vivre ensemble, accompagnée de modalités culturelles extrêmement variées et recomposées en permanence, mais c'est un fondement sang et sol. Et ce fondement sang et sol, c'est-à-dire ces lumières romantiques, se sont effectivement penchées sur les tziganes, parce qu'elles découvrent le mythe indo-européen, et donc du coup elles ont favorisé la persistance de ce mythe jusqu'à l'époque contemporaine, tout en prétendant vouloir faire accéder tous ces peuples différents de l'Europe à une émancipation. Et la décolonisation intérieure des peuples de l'Europe qui s'opère au XIXe siècle sous le nom de ce qu'on appelle le principe des nationalités a totalement échoué. Parce que vous versez dans ce que l'Europe centrale a conduit jusqu'au désastre absolu, l'ethnopolitique. Et vous n'en êtes pas sorti. Donc il y a une voie étroite entre l'universalisme républicain d'un côté issu des Lumières et le particularisme ethniciste, défensiste, issu de l'ethnopolitique. Et cette voie étroite, eh ben, c'est le gros problème qui se pose et pour lequel je n'ai pas de réponse.
Bon, on remercie Henriette Asseo de cet exposé. Encore une fois, vous pouvez continuer à discuter avec elle à propos de son bouquin qui est en vente juste à côté et qu'elle peut dédicacer également. Et là, il y a un nouveau débat qui va démarrer.